Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blum. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Emmanuel Kraft. Emmanuel Kraft adore chanter dans les chorales et aujourd'hui il va évoquer effectivement les chorales. Emmanuel Kraft, bonjour.
Bonjour Christiane.
Alors, j'aimerais tout d'abord que vous évoquiez ce que sont les chorales globalement.
Bon, le paysage global en France, pour commencer, en France, c'est 6000 groupes vocaux.
6000 groupes vocaux.
Voilà, ça représente près 4% de la population française.
Oui, parce qu'une chorale, c'est combien de...
En gros, ça peut aller de 4 à 120.
La moyenne,
c'est 40, en gros.
D'accord.
Donc, 6000 groupes vocaux de 40 choristes.
Donc, ça fait quand même 240 000 choristes.
Donc, 240 000 choristes en France.
En France, oui.
Et si on regarde par rapport aux autres pays européens, on est à peu près dans la moyenne.
Le premier pays, alors
Le premier pays, c'est l'Autriche.
Ah oui.
11% de choristes en Autriche.
Oui. Ensuite
Ensuite, c'est la Suisse, avec à peu près 8%.
Que des petits pays aussi.
Oui. Bon, l'Allemagne, je pensais que l'Allemagne, où il y avait beaucoup de chœurs. En fait, c'est une fois et demie la France, c'est 6%.
Ah oui.
Et en Angleterre, c'est moins qu'à ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, après, il y a des pays où il y a beaucoup moins. En Espagne, c'est 2%.
Alors, j'imagine que...
En Italie, 5%, c'est pareil qu'en France.
Oui. J'imagine que les chorales, en fait, il y a une grande variété, parce qu'il y a des chorales catholiques, protestantes, mais aussi...
Il y a une énorme variété, à commencer par les chœurs professionnels, comme, je sais pas, Accentus, le chœur de Radio France.
Voilà.
Ce sont des professionnels et des chanteurs professionnels qui peuvent chacun, d'ailleurs, tenir des rôles de soliste parfaitement.
Oui, les petits chanteurs à la croix de bois, par exemple.
Les chanteurs à la croix de bois, ce ne sont pas des professionnels.
Ah non, c'est vrai.
Ce sont des enfants amateurs.
Oui.
Qui a un très très bon niveau, qui passe énormément de temps à travailler. Il y a par exemple des lycées aussi, comme je pense à Notre-Dame de Liesse.
Oui.
Où dans le parcours scolaire, il y a un apprentissage du chant et d'instruments. Mm-hmm. Ça fait partie du parcours.
Oui, c'est bien. D'ailleurs,
c'est presque des pros.
D'ailleurs, avant, dans tous les pensionnats, il y avait une chorale. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça n'existe plus dans l'enseignement.
Non, c'est vrai que c'est, dans l'enseignement, ça ne se trouve pas. Par contre, ça fait partie, dans les conservatoires, quand on joue d'un instrument, mettons du violon par exemple, on est aussi tenu à faire une pratique collective. Donc la pratique collective en conservatoire, ça peut être une pratique d'orchestre, mais ça peut aussi être une pratique de chœur. Et donc notre chœur qui est à Puteaux, le chœur Les Saisons, on a une convention avec la ville de Puteaux qui fait qu'on est tenu, on est d'ailleurs très content, d'accueillir des gens qui chantent en cours de chant pour qu'ils aient une pratique collective en chœur.
Parce que vous-même, vous êtes un choriste.
Moi, je suis un choriste amateur, voilà.
Et depuis combien de temps ?
Depuis très longtemps.
Vous avez chanté quand vous étiez enfant ?
Oui.
Ah oui, et toujours...
Je n'ai pas chanté en chœur, j'ai commencé à chanter en chœur quand j'avais une vingtaine d'années.
Oui.
Et depuis, je n'ai jamais arrêté.
Oui. Et qu'est-ce que vous êtes ?
Je suis basse.
Vous êtes basse.
Bariton basse.
Très bien. Donc, vous chantez toutes les semaines ?
Alors, on va revenir là-dessus
tout à l'heure.
Il y a une rubrique « Comment ça marche ?»
Oui.
Le rythme de répétition.
D'accord. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup de variétés de chorales.
Donc, ça commence par les pros. Et là, c'est des grosses structures. Ça va jusqu'à des amateurs qui chantaient des choses très variées.
Oui, c'est ça. Parce que les styles sont différents. Ça peut être de la musique classique, ça peut être du jazz, ça peut être quoi encore?
Il y a du gospel, il y a de la chanson, il y a du folklore, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, vous-même, vous avez choisi quelle sorte
Moi, je suis un chœur qui chante plutôt du classique.
Du classique.
De toute période, jusqu'à même des choses du XXe siècle.
Et plutôt religieux ou
Il y a des deux. Il y a du religieux, il y a du profane.
Très bien.
Dernier concert qu'on a donné, il y avait le Requiem de Mozart, ça c'est un grand classique. mais des pièces religieuses, bon, le Dixit Dominus de Handel, qui est à la marge entre le religieux et l'opéra, enfin, parce qu'en fait, Handel a écrit ça, mais un petit peu comme un opéra.
Oui. Alors, je reviens aux participants, parce que c'est intéressant de voir quels sont les métiers, peut-être, les professions qu'on retrouve dans les chorales.
Alors, les chorales ont une particularité, c'est d'avoir une grande diversité
de professions,
de participants, de styles, de participants, les différentes structures qui existent. Et si on prend les participants, il y a tous les âges.
Ah oui.
Dans notre chœur, il y a des jeunes de 25 ans et le président, il a plus de 80 ans.
Donc, ça commence à 25 ans,
bah,
votre
ça
chorale
commence, oui.
La vôtre.
Un autre, voilà. Mais on essaye d'avoir des jeunes, c'est pas évident.
Ah, c'est compliqué.
C'est plus compliqué.
Oui.
Parce qu'ils sont pris par leurs activités. Voilà.
Alors, et votre milieu, c'est plutôt un lieu de retraités ou bien non, de gens en activité?
Il y a de tout. Il y a des retraités, il y a des gens en activité, il y a des médecins, il y a de tout. Franchement, oui. Les chœurs, c'est un groupe de personnes avec une grande variété, en fait.
Oui. Et alors, ça doit être justement ça qui est agréable, c'est que vous rencontrez différentes opinions.
Et puis, différentes façons de voir les choses, différentes... même au niveau de la qualité vocale, on essaye d'être à peu près homogène,
oui.
Enfin, d'avoir à peu près le même niveau, mais on n'a pas tous le même niveau.
Oui, bien sûr. Parce que certains continuent à apprendre ou...
Tous, alors, c'est compliqué, c'est un truc très compliqué.
Expliquez-nous.
Ça paraît, en fait, on peut chanter simple, mais quand on veut chanter et chanter facilement... Ça demande un apprentissage et une technique. Et c'est quand même assez compliqué.
Non, mais c'est comme un instrument, en fait.
Oui, c'est... enfin, c'est comme un instrument et peut-être encore plus compliqué parce que quand on chante, on n'entend pas. On entend quelque chose, mais qui n'est pas ce qu'en...
Mais ça, c'est normal.
Quand vous jouez du piano, bon, d'abord, bon, le piano... vous entendez ce qu'entend le public, pratiquement.
Oui.
Quand vous chantez, vous entendez carrément autre chose. Donc, les sensations qu'on a quand on chante, c'est pas seulement auditif, mais c'est aussi...
ça passe par le cerveau.
Le cerveau, par la respiration, beaucoup.
Oui,
par la tenue.
Oui.
Bon, bref, c'est quelque chose de compliqué et on n'a jamais fini d'apprendre.
Oui.
Même quand on a chanté pendant 60 ans.
Oui, mais vous avez l'impression que vous apprenez toujours, alors.
Oui.
Oui. Et c'est ça que vous aimez ou vous trouvez que c'est parfois difficile?
Ben, non, parce que alors, quand on commence à prendre des cours de chant, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'on change la façon de chanter.
Oui, parce que j'imagine qu'avant, vous chantiez dans une chorale,
quand on chante,
à l'église.
Oui, ben, à l'église ou ailleurs, dans différentes chorales, qui n'est pas forcément le niveau où je suis actuellement.
Mm-hmm.
Mais finalement, le fait d'apprendre à chanter rend après les choses beaucoup plus faciles. C'est-à-dire qu'au lieu de forcer sa voix, j'avais chanté le Requiem de Fauré et j'avais des difficultés dans certaines parties un peu aiguës. Maintenant, je ne les ai plus du tout.
Oui, c'est ça.
Quand je rechante cette œuvre.
Oui, parce qu'en fait, vous avez votre intelligence à marcher en même temps que vos cordes vocales. C'est ça, en fait.
C'est la façon de placer la voix qui facilite la chose, en fait.
Bien sûr. Et est-ce que vous pensez que... votre voix a changé au cours des âges, si je puis dire.
Non, je... Non. Ben je...
Vous êtes toujours au même tempo?
Oui, non, ça, la voix, elle ne bouge pas.
La voix ne bouge
alors,
pas.
Alors, j'ai de la chance pour l'instant, ma voix reste, hein, malgré un âge un peu avancé.
Mais non.
si.
Et justement, est-ce qu'en France, on peut dire qu'il y a des différences avec d'autres pays quant aux choristes?
Non, je ne pense pas. On a eu une expérience amusante il y a quelques années. La ville de Puteaux, dans laquelle le chœur est installé, est jumelée avec une ville allemande.
Oui, laquelle?
Et, bon, j'ai oublié le nom.
Oui.
Et en fait, on a organisé un jumelage avec un chœur de cette ville.
Oui.
Et donc, c'était
assez... C'est vous qui êtes allé...
Non,
c'est
on
eux
les a
qui
invités
sont
à venir
venus.
À Puteaux. Ils sont venus 2-3 jours. On a organisé un concert ensemble.
Oui.
Nous, on a chanté une partie. Eux, ils ont chanté une autre partie pour eux tout seuls. Et puis, on a chanté ensemble une œuvre que chacun avait préparée de son côté.
Et c'était bien.
Donc, c'était très bien.
Ouais.
Et en fait, on s'aperçoit que on est pareil.
Oui, c'est ça. la musique unit les peuples, on peut le dire.
Oui,
hein.
Oui.
Et vous aviez le même niveau, donc.
Oui, alors, c'est important. La chef de chœur, à l'époque, est allée voir sur place le chef de chœur. Ils se sont mis d'accord. Il y a eu un bon fit entre eux. Et on était effectivement deux chœurs un peu comparables.
Oui.
Ce qui a facilité les choses.
Et donc, ça a été très bien, sûrement, après, vous êtes de chanter ensemble, c'était...
Alors, c'était très sympa, tout le monde était très, très content. Nous, on se dit, bon, ça va être sympa, on va aller chez eux. Et en fait, les choses ont fait que ça ne s'est pas fait.
Ah.
Donc, c'était un peu...
Un peu dommage.
Un peu dommage.
Mais peut-être que ça
on
se
va réessayer. On va essayer de refaire ça avec des Italiens.
Oui.
Parce que Puteaux est...
Jumelé.
Est jumelé avec une ville italienne.
Quelle ville?
C'est une petite ville qui est au nord de Rome.
Ah oui.
Comme plutôt est au nord de Paris,
enfin
ouest, nord-ouest, voilà.
Donc vous pensez que vous irez
Peut-être, ça va peut-être se faire.
Ah ben ce serait bien.
Alors, d'autant plus que dans le chœur on a une soprane italienne.
Ah donc elle va
ça,
savoir.
Ça peut faciliter les choses.
Oui, certainement. Alors, ce qui doit être compliqué, c'est que dans une chorale, il y a différents styles. Donc il faut tout de suite s'adapter au style de ce que vous allez chanter. Est-ce que c'est complexe?
Oui, enfin, il faut se mettre dans le quand il y a un changement de style.
Oui.
On met un certain temps à s'y mettre.
Ah oui.
On met je sais pas, un ou deux mois à se mettre dans le style.
Ah oui.
On a chanté il y a 2 ans du Dvorak.
Oui.
En tchèque.
Ah, vous avez dû apprendre. Alors, non. Alors c'était à l'oreille.
Non, mais on s'est fait aider par une tchèque, prof de piano. D'abord, on a enregistré les prononciations des différents...
Vous compreniez ce que vous disiez?
Oui, alors, on avait les traductions.
Oui.
Ça, c'est indispensable de savoir un peu ce qu'on chante.
Voilà, c'est ça, oui. C'était ma première question.
En ce moment, on prépare un programme Rossini pour le mois de juin, fin juin et juillet.
Oui, mais en italien, c'est plus facile.
C'est l'italien, pile que ça.
Ah bon?
Non, non. Et donc, moi, je prépare pour les choristes des fichiers où il y a la prononciation de l'italien, donc je l'ai fait enregistrer par cette soprane italienne.
Oui.
Et puis, on a aussi des fichiers, alors ça, c'est la prononciation du texte,
oui.
Du texte de ce qu'on chante. Et puis aussi, on a la prononciation en rythme.
Et oui.
Du même texte, de façon à ce que chacun, ceux qui ne parlent pas bien italien ou qui n'ont pas l'expérience,
oui.
puissent travailler individuellement les choses.
Alors là, vous parlez italien?
Si. Parlons italien,
oui.
Non. Donc c'est une chance.
Donc c'est facile pour vous.
Pour moi, c'est facile, oui.
Ah oui, ça c'est très bien. Oui. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Emmanuel Kraft et nous évoquons les chorales. Je sais, nous savons, chers auditeurs, qu'il est choriste lui-même. Et c'est pour ça que je suis contente de l'interviewer parce que je m'aperçois que, en fait, c'est tout un apprentissage. Alors, vous en étiez justement aux langues étrangères.
Oui.
Et vous disiez que les langues étrangères, quand on les connaissait, c'était plus facile. Pourquoi, en fait ?
Parce qu'on n'a on a pas de souci de prononciation, on a beaucoup moins de souci de compréhension. En fait, quand on chante de l'allemand et qu'on ne connaît pas bien l'allemand, on est obligé de regarder sa partition si on ne sait pas par cœur.
Ah oui.
C'est difficile d'apprendre par cœur quelque chose qu'on comprend
pas bien. Alors justement, ça c'est une question. Est-ce que en fait, vous savez quand même par cœur et que votre livret, c'est simplement pour que vos yeux suivent ?
Alors,
parce qu'il y a vos yeux qui doivent suivre votre partition, mais il y a vos yeux qui doivent suivre votre chef.
Le chef n'arrête pas de nous dire « regardez-moi ».
Eh bien voilà.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance, pour se sécuriser, à regarder sa partition et ne pas regarder le chef, ce qui n'est pas du tout bien pour l'ensemble, parce qu'on a vraiment besoin d'être ensemble. Et puis le chef n'a pas toujours le même tempo, donc c'est indispensable de le regarder. Dans les langues, les principales langues qu'on a pu chanter, bon, il y a bien sûr de l'allemand, de l'italien, de l'anglais. On a aussi chanté en russe.
Et vous, quelle est la langue que vous préférez pour la chorale ?
J'aime beaucoup l'italien, parce que c'est une langue très musicale,
oui.
Plus musicale que le français, beaucoup plus musicale que l'anglais, qui n'est pas du tout musical
pour
moi. Et
l'allemand ?
L'allemand est musical, mais comme je ne maîtrise pas, c'est plus
difficile,
ça demande plus de travail. Le tchèque, c'était assez amusant comme expérience.
Et bien sûr, à chaque fois, vous avez donc beaucoup voyagé, j'imagine ?
Non, ouais, personnellement ou pour le chœur ?
Pour le chœur,
j'entends. Ah non, on n'a pas voyagé du tout. Non,
se passe toujours à Paris.
Ça se passe à Puteaux,
Ça se
passe à Paris.
Oui.
Ça se passe en Vendômois, puisque comme j'habite à côté de Vendôme, j'organise...
Des concerts.
Tous les étés, un week-end, à l'occasion duquel on donne un ou des concerts dans le coin.
Oui, alors peut-être on va en profiter pour dire quels sont les concerts que vous allez organiser.
Alors, on vient de chanter fin janvier la petite messe solennelle de Rossini.
Oui.
À Puteaux et à Paris, et également à Rouen, parce qu'on a chanté avec un chœur qui est à Rouen.
Oui.
Qui est dirigé par le même chef de chœur.
Ah, formidable. Voilà. Et quand vous allez chanter dans le Perche ?
Alors, dans le Perche, on chante tout seul, sans le chœur de Rouen, parce que ça fait beaucoup de déplacements. Et le prochain programme, c'est un programme Rossini, musique sacrée et profane, de Rossini et d'autres compositeurs italiens, Donizetti, Bellini. On va chanter à Puteaux, on va chanter à Rouvres, dans la belle église de Rouvres.
Alors justement, chers auditeurs, vous devez connaître Rouvres, parce que nous avons eu celui qui a organisé aussi des journées à Rouvres, parce qu'il y a une très très belle église. Donc là, il y aura non seulement la belle église, mais encore le concert. Et
voilà.
Il aura lieu quand ?
Le concert de Rousse, c'est le 25 juin, c'est ça ?
25 juin.
Il me semble.
Donc vraiment, il faut assister absolument à ce concert. Et vous serez combien de choristes ?
On sera 40.
40.
Oui.
Et ça va de quel âge à quel âge ?
Ça va de 25 à 80 et quelques.
Et combien de femmes par rapport à... Et combien d'hommes ?
Alors, on est 40. Alors qu'il y a les sopranes, les altos, les ténors et les basses.
Oui.
Ténor plus basse, ça doit faire à peu près 15. Et 25, 13 et 12. Et j'ai oublié dans les langues, quelque chose d'important, c'est le latin.
Ah oui, bien sûr.
Bon, c'est pas très difficile, le latin. Sauf quand on choisit une prononciation du latin qui n'est pas la prononciation du latin d'église. Du latin qu'on prononçait au 19e.
Ah,
donc
oui.
Ça peut arriver. Si on veut restituer une œuvre dans son contexte, comme le Requiem de Forêt, par exemple, on peut le chanter avec un latin un petit peu particulier.
Ah, très bien.
Voilà.
Donc, vous apprenez ?
On apprend.
Et alors, est-ce que vous passez beaucoup de temps en dehors des répétitions pour apprendre, justement ?
Alors, ça dépend ce que... ça dépend ce qu'il faut chanter, si c'est plus ou moins difficile. Si c'est des choses que j'ai déjà chantées, je n'ai pas beaucoup de travail parce que j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire musicale.
Oui.
C'est curieux, la mémoire, j'ai une mauvaise mémoire des noms, par exemple.
Ah oui ?
Mais la mémoire musicale, c'est incroyable. Ça revient...
aussitôt que
aussitôt.
Vous mettez à
c'est
à
comme
chanter.
Si c'était hier.
Ah oui, c'est merveilleux.
C'est une grosse chance.
Ah oui, mais peut-être que ça fait partie de... Si vous l'aimez, c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile pour vous aussi.
Oui, sans doute.
Alors, le chœur, c'est tout le temps une construction, parce qu'il y a des gens qui vont partir, des gens qui vont rentrer. Et pour le chef de chœur, ça doit être quand même compliqué, non ?
Alors, C'est vrai qu'un chœur, c'est quand même un groupe de personnes un peu particulier et qui nécessite vraiment une bonne entente.
Oui.
Pour que ça fonctionne, parce que si on ne s'entend pas, ça se répercute sur la qualité musicale.
Alors, est-ce que vous avez en commun simplement des répétitions ou bien est-ce que vous faites des choses en dehors de cela ?
Alors, c'est vrai que non, on n'a pas de choses vraiment... Enfin, la difficulté pour créer l'alchimie du chœur...
Oui, c'est ça.
Bon, bien sûr, on a besoin de répétitions, mais répétitions, on arrive aux répétitions, plus ou moins à l'heure, selon certains... Et on repart à la fin de la répétition, on n'a pas beaucoup le temps de
se parler.
De parler. On a des répétitions, donc tous les lundis, ça dure 2 heures, donc là on arrive, on repart. Bon. On a des répétitions aussi le samedi après-midi, toute l'après-midi, et là on a une coupure, parce qu'on ne peut pas chanter 4 heures de suite. Et là, il y a traditionnellement un goûter sur
on
place,
peut parler,
et là on peut discuter avec les uns les autres. Et puis, on a un truc qui existe depuis le départ du chœur, qui est de faire un grand week-end à la fin de l'année.
Avec les épouses
juin. En général, non. Enfin, ceux qui veulent, oui. Il y en a certains qui viennent avec leurs épouses ou leurs époux. Pas beaucoup. C'est un week-end qu'on fait fin juin, début juillet, que j'organise depuis pas mal de temps déjà, à Vendôme. Vendôme et environ. Et là, on peut se retrouver de façon différente. L'année dernière, j'ai organisé un truc. On n'avait qu'un concert à donner le dimanche à Vendôme. Donc le samedi, j'ai organisé 2 groupes. Un groupe que j'ai appelé La Tête et un autre qui était Les Bras.
Ouais.
Donc Les Bras ont fait du canoë sur le Loir,
ouais.
De côté de Cloix.
Ah oui, c'était bien.
Donc c'était. Alors, et puis on s'est retrouvés tous ensemble au déjeuner.
Ah, ça, c'était parfait.
Et puis, le soir, traditionnellement aussi, on a un dîner le soir. Ça crée une ambiance différente et ça permet aux uns aux autres, ça permet de souder le cœur.
C'est ça. C'était un peu le but de ma question parce que je pense que chanter, c'est partagé et donc on a dans le partage, effectivement.
Alors, le partage, effectivement, on l'a. Le but, quand même, à chaque fois, le but, c'est de produire de la musique en concert.
Alors, comment ça marche sur le plan financier ? Ça ne doit pas être aussi simple.
Bon sujet. C'est un sujet... en fait, les chœurs ont chacun leur formule.
Oui. Alors, votre
formule... Quand vous donnez un concert, que ce soit même à l'Opéra de Paris ou autre,
oui.
Les entrées ne représentent qu'une partie infime du budget,
oui.
En fait.
Ah bon ?
Donc, les ne couvrent absolument pas le budget du concert. Donc, on ne peut fonctionner
que par sponsor.
Que si on a des aides autres que les entrées. Nous, on a la chance, depuis tout le temps, d'avoir une aide de la municipalité de Puteaux.
Mmh.
On a une convention triennale. Et au terme de cette convention, on reçoit une subvention de la ville de Puteaux. Et en échange, on donne 2 concerts, un fin janvier... Un fin juin,
oui.
À Puteaux, au conservatoire de Puteaux.
Et pourquoi vous avez besoin d'argent ?
Ben parce qu'il faut payer les professionnels. Donc, nous, on est amateurs, donc on paye pour chanter.
Oui.
Et en fait, il faut
Parce que vous faites partie d'un club, en quelque sorte.
C'est un genre de club, si vous voulez. Mais quand on donne un concert, comme exemple Requiem de Mozart,
oui.
Ben, y a un orchestre.
Ah oui.
Il y a des solistes professionnels qui sont... On a un chef de chœur qui est un professionnel. Et ils sont tous...
Ce n'est pas votre chef de chœur habituel.
Si. Notre chef de chœur est un professionnel.
Ah oui.
Qui est rémunéré en tant que professionnel. Et quand on monte un concert comme le Requiem de Mozart ou le Dixit Dominus de Handel, il y a un orchestre assez conséquent et ça a un coût.
Ah oui, par exemple.
Par exemple, au niveau du coût.
Oui.
C'est plus de 10 000 euros.
Ah oui, c'est ça. Donc,
un concert Requiem de Mozart, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 15 000 euros.
Ah oui.
Parce que les musiciens professionnels, ils sont rémunérés, et en plus, il y a des charges.
Par exemple.
Quand un musicien reçoit 100, il y a 70 charges en plus.
Ah oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, donc en fait, et vous avez une cotisation, comme si
alors,
vous faisiez partie d'une association.
Voilà, on a une cotisation qui est destinée à rémunérer le chef de chœur pour toutes les répétitions de l'année.
Ah oui.
Et en plus, on a les partitions à acheter.
Mais peut-être qu'il y a des facilités parce que vous achetez ça en groupe, j'imagine.
On achète ça en groupe. Dans certains cas, on peut faire des photocopies si on adhère à une association, etc. Bon, il y a des formules qui permettent de réduire un peu les coûts. Mais le coût principal, ce sont les professionnels. Et alors, du coup, comme on ne peut pas donner deux concerts conséquents, avec des coûts importants chaque année, on donne un concert un peu important où il peut y avoir un orchestre. Mais et puis, au mois de juin, c'est beaucoup plus réduit. On a une pianiste et éventuellement une soliste.
Oui.
À ce moment-là, on arrive à équilibrer comme ça l'année.
Et vous, votre cotisation, elle est importante pour faire partie de votre du
c'est, groupe c'est 130 euros par an.
Mais alors la partition, elle est donnée en même temps ou non? C'est en plus.
C'est en plus, mais bon.
Enfin, c'est pas. Et donc, la question aussi, c'est finalement, on croit assister à un concert de gens qui ne sont pas musiciens, qui ne sont pas professionnels. Et il y a combien de professionnels par rapport au nombre de chanteurs, de choristes?
Si on prend l'exemple de Requiem de Mozart, oui. Il y a, je ne sais pas, oui. Dire de bêtises, mais une quinzaine de musiciens, quatre solistes, un chef, et nous on est 40. Ou 60, 70 si on est deux chœurs ensemble.
Ah oui, donc vous êtes presque une centaine en quelque
sorte. Oui.
Ah oui.
Il n'y a pas longtemps, j'ai chanté à Saint-Louis des Invalides,
oui.
Avec l'orchestre d'harmonie. Des troupes de Versailles, oui. On était 90 choristes,
ah.
il y avait un chœur de Paris qui s'appelle le chœur Aria, le chœur de Polytechnique, plus d'autres comme moi venant d'autres chœurs.
Oui,
on était 90.
Ça devait être magnifique.
C'était extraordinaire.
Et vous-même, vous deviez avoir des frissons. Enfin,
c'est une œuvre qu'on avait chantée déjà au mois d'avril, que j'avais chantée deux ans avant, qu'on connaissait par cœur.
Ah oui.
Donc c'était formidable comme expérience.
Ah oui, c'est ça. Donc, dans ces cas-là, votre famille vous accompagne, j'imagine, pour vous entendre.
Ben, s'ils peuvent venir, ils viennent, oui.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une grande fête pour vous quand vous chantez comme ça.
Oui, c'est vrai. Pour tout le monde.
Pour tout le monde, oui. Et votre épouse, elle chante aussi?
Non.
Elle n'a pas eu envie
Non. Elle fait d'autres activités.
Oui, c'est ça. Voilà. Alors, justement... quelques traits humoristiques dans tout cela, parce que en fait, là, vous êtes très sérieux dans cette chorale, mais peut-être que quelquefois, il y a les travers des chœurs.
Traditionnellement, il y a des blagues entre les basses et les ténors,
oui.
Entre les altis et les sopranes. Ça, c'est assez classique dans tous les chœurs. Et puis aussi les comportements de certains. Qui arrive en retard à la répétition, parce qu'en fait, une répétition commence par l'échauffement vocal.
Ah oui.
Il y en a qui se disent, bon,
c'est pas la peine,
je vais arriver un petit peu plus tard.
Ouais. Mais sinon, tout se passe bien.
Ça se passe bien, ça se passe en bonne entente. J'ai eu un moment d'expérience d'un truc qui faisait que le chœur ne marchait pas.
Ah.
C'est qu'il y avait des individualités.
Ah oui,
qui se prenaient pour des castafiores.
Ah oui.
Et ça donne une mauvaise ambiance dans ce cas-là.
Et depuis, tout est revenu dans l'ordre.
Elles sont parties et voilà. Mais c'était il y a très longtemps.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Maintenant, je crois que quand nous entendrons un chœur, nous aurons une autre opinion de ce que nous pouvions avoir auparavant. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, à une autre fois.
À une autre fois. Au revoir, Christiane.